Vous avez fait le couplet, moi je m'arrête, vous faites le refrain tout seul et puis moi je reprends sur le couplet.
cette situation. Moi, je mettais mon manteau dans le placard. Non, il n'y a plus de placard.
Quoi ?
Ça dépend sur qui tu tombes. Tu comprends ? L'hôpital, c'est très bien si tu tombes sur un apprenti. Si tu tombes sur un apprenti, ça joue la tête. C'est ça. Nous, comment on a pris ?
Si je faisais le début ou si je faisais la fin.
En faisant notre
mais en fait, non, je vais faire la fin. Je vais faire.
Oui, on va faire la fin.
Thank you. Thank you. légèrement prénom. Ouais, ouais. Je salue parce que je sens que tu crains pas ça, mais j'ai un peu mal.
c'est la suite.
Alors ça va, t'entends la barbiche. Alors vous, ça vaut pas. Ça va, je te fais la bise.
Ouais.
C'est pas l'électrique, mais ça se ramasse.
Martine.
Thank you.
mais c'est la paracha.
En attendant.
Ouais, ouais, ok. Et on va faire le chemin.
Peut-être avant le soir. Je sais pas, il m'a dit un chant.
Un chant pas... Ouais, si. Un chant là-bas. Ok, tu as.
Comme tu veux.
Viennent nous visiter en ce jour. Alors nous allons entonner ce chant Adonakam.
Dieu soit béni. On va se lever pour le chemin. Shema soit béni, car ton nom est au-dessus de tout nom, et qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné, car tu es le seul nom, tu es la seule véritable identité, tu es le seul être qui vit éternellement. Sois béni, Yeshua, Mashiach, notre Messie. Amen. C'est Aré qui nous présente aujourd'hui la paracha.
Bonjour tout le monde.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom. Donc c'est la 20e paracha de l'année. Ce qui veut dire que Shabbat prochain déjà c'est Purim. Donc c'est Shabbat Sachor. Donc on va lire ensemble. Vous m'entendez pas? On m'entend pas. Oh, c'est bien. Bon, je vais parler un peu plus fort. Mais j'ai une voix un peu compliquée aujourd'hui. Bon. Donc, c'est Shabbat Sachor aujourd'hui. Et ça veut dire qu'on va lire Deutéronome 25, 17 à 19. Donc, je vais vous lire. Hein. C'est le Shabbat de souvenir de justement de Purim, juste pour vous rappeler des choses. Et puis moi, comme j'aime bien les petites oreilles qu'on va manger, donc hein, profite pour vous dire qu'il faut mettre en route le four. Bon, alors souviens-toi de ce que t'a fait Amalek lors de votre voyage au sortir de l'Égypte. Comme il t'a surpris chemin faisant et s'est jeté sur tous tes traînards par derrière. Tu étais alors fatigué, à bout de force, et lui ne craignait pas Dieu. Aussi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura débarrassé de tous tes ennemis d'alentour, ça va être bien, dans le pays qu'il te donne en héritage pour le posséder, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Ne l'oublie point. Voilà, donc j'ai fait ça fait partie des choses obligatoires. On continue. On continue avec la 20e paracha, qui est donc la paracha Tetzavé. C'est une paracha qui, sur le papier, est un peu difficile, je l'avoue. Parce qu'on lit plein de choses sur les détails techniques des vêtements, etc., que devaient porter les sacrificateurs dans le temple. Bon, comme la semaine dernière aussi, hein, et les parachas à venir, on va lire plein de trucs techniques sur le temple, sa construction, les ustensiles, etc. Ça peut être un peu laborieux. En tout cas, je le trouvais un peu fastidieux à lire. Mais Dieu, il a toujours un message pour nous, même quand c'est un peu fastidieux. Et donc, je me suis dit que... Bah, j'ai lu quelque part que celui qui cherche, il trouvera. Et donc, je me suis mis à chercher. Et donc, j'ai trouvé, je pense. Hein. En tout cas, je trouvais que Tetzavé, c'était une paracha qui est particulièrement porteur d'un message messianique. Voilà. Donc, on avance. Donc la 20e paracha, comme je disais, prend son nom du deuxième mot du passage de Shemot 27-20. Donc le mot c'est donc Tetzavé, qui est en gras ici. Et ça donne en français: pour toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël de te choisir une huile pure d'olive concassée, afin d'alimenter les lampes en permanence. Voilà Tetzavé. Ça veut donc dire « tu ordonneras ». On avance. Alors, j'aime bien quand même de donner un petit thème de mon commentaire. Et le thème d'aujourd'hui se résume dans ce passage de Proverbe 6:23, que je peux vous lire aussi. Car les préceptes sont une lampe, l'enseignement, une lumière, et les avertissements de l'instruction, le chemin de la vie. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à faire avec tout ça? Ben, je vais vous expliquer, on va avancer. Alors, avant de rentrer un peu plus dans les détails, je veux quand même vous montrer des choses, parce que où en est-on? Mettre les choses un peu en perspective. Ça c'est quelque chose que je vous avais montré dans ma dernière paracha qui date maintenant d'un certain temps. Et c'est la lignée de Abraham à Yeshua. Et donc on est sur, en termes d'années ici, on est sur une durée d'environ 2000 ans plus.
D'accord.
2-3000 ans. Et derrière ça, on sait aussi que de Yeshua à nos jours, il y a aussi 2000 ans. Bon, je ne clame pas de lien particulier. Mais je vous montre cette lignée pour plusieurs raisons. Un, pour situer la paracha, puisque je trouve que c'est quand même utile de savoir à peu près où on en est. Ça c'est la première raison, la situer dans le temps. Deuxième raison, c'est de rappeler, parce que c'est aussi utile, l'objectif messianique de Dieu. Il s'est pas arrêté à un moment donné où le temps ne s'arrête pas forcément pour lui. Il a toujours un message, comme je disais, en tête. Et troisièmement, rappeler que Dieu, il a donc une perspective longue et il connaît tout. Et donc ça, c'est utile aussi parce que quand on lisait le passage que je vous rappelais là tout à l'heure sur le fait que les enfants d'Israël devaient apporter ou choisir une huile pure d'olive concassée pour le luminaire afin d'alimenter les lampes en permanence. Qu'est-ce que ça veut dire un autre jour? Donc, on va regarder ça. Alors, la semaine dernière, Christian, il nous a parlé des instructions pour la création de la menorah, de la lampe dont on parle ici. Donc, cette lampe, elle est pleine de symboles. On en trouve des références un peu partout dans la Bible, de l'Exode à l'Apocalypse. Et en quelque sorte, on peut dire que la menorah, c'est le symbole par excellence d'Israël, du peuple de Dieu. À l'époque de Yeshua, cette lampe était connue comme la lumière du monde. La lumière du monde, comme je disais dans le passage que je vous ai lu des Proverbes, cette lampe, c'est les préceptes de Dieu. C'est porteur de ses instructions. Alors, je veux quand même rappeler un autre fait. Ici, sur l'écran, vous voyez une image qui est tirée de l'arc de Titus à Rome. Et en fait, encore une fois, rappelez-vous qu'on est en permanence dans un combat spirituel avec la descendance d'Ésaü. C'est ce que je disais. Hein, bon, je reviens à la paracha des Toldot, hein, mais on est dans le combat entre le bien et le mal. On est dans le quatrième exil, le combat du futur. Et donc sur cette photo, en fait, l'arc de Titus a été érigé. Je n'ai pas exactement l'année en tête, mais elle était érigée quand Titus il revenait de Jérusalem et d'Israël en ayant cassé le temple et en ayant en quelque sorte détruit Israël. Rome a détruit Israël. Autrement dit, Rome, c'est le siège de l'Empire romain, c'est le siège d'Édom. D'accord. Et donc on pourrait dire qu'au lieu de dire « Rome a détruit Israël », le diable détruit le royaume de Dieu. C'est ce qu'on voit ici quand les soldats de Titus portent la menorah, et la menorah qui est donc le symbole par excellence d'Israël. Ok. Bon, ils ont fait ça, mais c'était un peu mal connaître Hachem. Donc... bien sûr, il a autre chose en tête. On va avancer. Donc, cette lampe, la menorah, les enfants d'Israël devaient porter cette huile d'olive pure pour alimenter les lampes en permanence jusqu'à ce que la lumière soit. Okay. C'était les Lévites qui devaient en permanence alimenter ces lampes-là pour faire briller la lumière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On est dans les images ici. Hein. Et on parle, à mon avis, de leur rôle, le rôle des Lévites, des sacrificateurs, des rabbis, etc., de leur rôle d'enseignement qui doit apporter la lumière pour Israël. L'enseignement de quoi? C'est l'enseignement des préceptes de Dieu. Okay? Dieu, il nous a donné tout. Tout ce qu'il faut pour vivre des vies heureux, bien, etc. Et de ces préceptes-là, il n'y a rien à ajouter. Et il n'y a rien à retrancher. C'est pur. C'est par la connaissance de ces préceptes, hein, les préceptes de Hachem, que notre chemin, il est éclairé. Les Kohen, les sacrificateurs, les rabbis, bon, Emmanuel, hein, je me permets, hein, ils ont ce rôle de transmission et d'enseignement pour nous guider vers le chemin de la vie. Donc les enfants d'Israël, ils doivent apporter une huile pure d'olive concassée. L'huile dont on parle, ce sont nos actions. Mais quand on dit huile d'olive concassée, imaginez, hein, vous prenez des olives, prenez un truc pour casser les olives, vous les écrasez. En quelque sorte, ce n'est pas ce qu'on a en tête comme une image pure, une huile pure en tout cas. On imagine une huile pure, on prend la bouteille d'huile d'olive, et puis on verse et on voit que c'est pur. Sauf que Dieu, il nous a donné des règles, des instructions. Et en fait, il nous dit que ces règles, ces instructions, nous, les hommes, on n'a pas à apporter notre filtre dessus. On n'a pas à les adapter à notre sauce, pour que ce soit plus facile, entre guillemets. Ok? Donc, comme je disais, il n'y a rien à ajouter, et il n'y a rien à retrancher. On doit apporter une huile pure d'olive concassée. Des actions selon les instructions d'Hachem. Mais, depuis qu'on avait reçu ces instructions, on commençait à adapter, filtrer un peu.
Ça va, j'ai un quart d'heure.
Il est passé.
Ah ben non, on a commencé en retard. Pas de problème. Donc, on avait commencé à filtrer les instructions, on les adaptait comme ci, comme ça, etc. Pourtant, Hachem nous dit dès Tetzavé qu'il ne faut pas faire ça, il faut apporter une huile d'olive pure, huile pure d'olive concassée, excuse-moi, non filtrée. Ok ? On avance. Bon, donc, Yeshua, Hamashiach, il est venu pour nous instruire dans l'intelligence de notre Dieu. Alors, il est venu pour supprimer les filtres qu'on avait mis sur l'huile pure d'olive concassée, sur les actions, les instructions du Seigneur. Supprimer les instructions qui ont été inventées par l'homme, les instructions païennes. Donc si on regarde l'étymologie du mot Messie, on a Macha, qui veut dire oindre, on a Misha, qui veut dire huile d'onction, et on en verra peut-être plus la semaine prochaine, je ne sais pas où il est, José. On verra. Et on a Machia, qui veut dire loin, et Hamashia, qui veut dire loin. Okay. Donc, d'où l'importance de l'huile. On avance. Le combat du futur, c'est maintenant. Nous devons nous efforcer de vivre comme Yeshua, avec des actions pures. Des actions, mes amis, c'est important, les actions. C'est pas juste l'écoute. Hachem nous donne tout pour qu'on vive des vies comblées en lui. Tout. On n'a besoin de rien. Il comblera tous vos besoins selon sa richesse. Dans la gloire, en Yeshua, Hamashiach. On lui apportera donc nos actions pures, de l'huile pure d'olive concassée, selon l'instruction de Yeshua, pour marcher avec lui dans la lumière de la vie. Comme il disait, je vous lis, « C'est moi qui suis la lumière du monde. » Donc la lampe dont on parlait tout à l'heure. « Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voilà. Ça, c'est la conclusion. Bon, et le slide suivant. La semaine prochaine, c'est la paracha de Kitassa. Donc, vous lirez Exode 30, 11 à 34, 35. La Haftara, c'est 1 roi 18, versets 1 à 39. Et le Brit Hadasha, c'est 1 Corinthiens 8, versets 4 à 13. À vos Bibles!
Todare. Que l'Éternel soit béni, on va louer l'Éternel. On sera encore perturbé quelque temps. Moshe était l'homme le plus patient de la terre. L'Éternel veut que nous apprenions à être les hommes les plus patients de Paris.
Je vous prie, Gadol, Elohai, pour les nadirs. dire depuis des années, jamais vous chantez règne en moi. Et il me disait que quand il entendait ce cantique, il était saisi, il était emporté. Le problème n'est pas d'être emporté, mais d'être, de rester là-haut. Alors pour rester là-haut, il y a un point de départ, évidemment, c'est Pessah. Règne en moi. L'orgueil de l'homme baissera les yeux, l'arrogance sera humiliée en ce jour-là. Ésaïe 2. N'est-ce pas la nuit pour le pays qui est dans la détresse? Ésaïe 8. Trois forces irrésistibles gouvernent le monde. Convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la chair. L'orgueil de la chair est cette capacité que nous avons à gonfler exagérément comme du levain, au point de nous aveugler quant à notre liberté de choisir. Nourri, il fait notre nuit noire et notre détresse. C'est une perte d'identité, car nous ne sommes nés que pour la lumière. Aussi, nous est-il salutaire d'abandonner notre morgue, de retrouver humilité et douceur. Et c'est alors nécessairement se placer au bénéfice de la nuit prédestinée de Pessah. Là, nous troquons nos ténèbres contre une nuit de protection de l'Éternel qui voit. Il voit que nous nous soumettons à sa parole et à la règle de l'agneau. L'agneau qui vit notre nuit pour que nous vivions sa lumière. Consommer sa chair qu'il nous tend comme le pain qui toujours accomplit les désirs de l'esprit de vie du Père. Boire le vin de son sang, ce principe de vie attaché à sa chair comme une semence éternelle, pour qu'il coule dans nos veines et que notre joie demeure. La lignée, héréditairement transmissible, est ouverte désormais sur le règne de la parole de Dieu et le fondement de l'agneau. Daniel 7. Sur la nuée des cieux, comme un homme, il s'avance jusqu'à l'ancien des jours. À lui l'empire, l'honneur, la royauté, tous les peuples serviront, son empire éternel ne passera pas et jamais ne sera détruit. Alors règne en moi. Et c'est une expérience que vous pouvez faire si vous le faites de tout votre cœur. soumettre sa volonté à sa volonté. C'est pour ça que Bemaim Zakim, c'est le passage obligé. Enlever la poussière de nos pieds pour entrer dans la Terre Sainte. Lavez-vous, purifiez-vous, écartez de devant mes yeux l'iniquité de vos actes. Apprenez à faire le bien. Ésaïe 1. Je m'écoule comme de l'eau. Tous mes os se disloquent. Psaume 22. Dans ses blessures, la guérison. Ésaïe 53. C'est ici l'image extrême de l'amour divin révélé à Golgotha qui se distribue aux quatre coins de la terre et rassemble. Et c'est aussi l'image, en son corps écartelé, de Yeshua Mashiach qui assume nos erreurs et nos gaspillages de forces multidirectionnelles. Ésaïe 4. Ce jour-là, le germe de l'Éternel deviendra parure et gloire pour les survivants d'Israël. Le reste, laissé à Sion, qui survit à Jérusalem, sera appelé saint. Tout ce qui est inscrit pour la vie à Jérusalem, quand le Seigneur aura lavé la souillure des filles de Sion, purifié Jérusalem du sang répandu. Ce sang des âmes mortes et qui devaient vivre. Ce sang des âmes qu'on a laissées vivre et qui devaient mourir. Revêt ta force, Sion, car ils ne viendront plus chez toi. Jamais l'incirconcis et l'impur. Secoue la poussière, Jérusalem captive. Ésaïe 52. La poussière des pensées d'hommes qui empêchent d'approcher les choses saintes et enchaînent au monde inférieur. Yeshua Mashiach essuie toute la poussière de nos pieds. Passage obligatoire pour apprendre à connaître le nom bafoué. Tout ça par amour de ce nom. Vous avez été vendu pour rien et vous serez racheté gratuitement. Ésaïe 52. Jean 13. Avant Pessah, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Il déposa ses vêtements, se ceignit d'un linge. Il se mit à laver les pieds de ses disciples avec le linge dont il était saint. Les mains, la tête, non, Seigneur. Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. Déjà, vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai dite. Kadosh, il est saint. Il est saint, il est loin du profane. Alors voici le message que nous avons reçu de lui. Dieu est lumière et en lui, point de ténèbres. 1 Jean 1. Entre nous et vous, un grand abîme a été fixé, afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le puissent pas et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas chez vous. Luc 16. Il existe une vie d'en haut et une vie d'en bas. Ainsi nous enseigne la parabole du riche et du pauvre Lazare. Les lois sont fixées. Sans un chemin de lumière et de vérité, nous ne verrons pas la vie. Genèse 1. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Or, la terre était devenue solitude et chaos. Des ténèbres couvraient la face de l'abîme et le souffle de Dieu planera à la surface des eaux. Elohim dira, une lumière sera, et une lumière sera. Yeshua est la lumière du monde. En lui, point de nuit. Il établit un couloir d'espérance dans le monde de nos ténèbres. Il est ce corps de lumière engendré dans la plénitude du souffle divin pour ouvrir les eaux du grand abîme et faire un chemin pour les rachetés de l'Éternel. Ésaïe 51. Il est la main couverte par l'ombre de l'Éternel. Ésaïe 51. Qui se tend et, montant dans les hauteurs, il emmène des captifs. Éphésiens 4. Et pour que les choses demeurent ainsi dans nos vies comme dans la création et pour toujours, il nous transmet sa force, son âme, dans laquelle l'âme de Dieu se complaît. Ésaïe 42. J'ai mis ma confiance en Dieu qui voile présentement sa face à la maison de Jacob et j'espère en lui. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servirons de signe et d'avertissement de la part de l'Éternel Tsebaoth qui réside en Sion. Amen. Seigneur, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité avec ton esprit, Seigneur. Nous voulons t'adorer avec un cœur pur, Seigneur, qu'aucune interférence de ce monde, Seigneur, dans nos pensées, dans nos prières, parce que nous voulons l'exaucement et parce que l'exaucement, c'est établir ton règne et imposer ta présence autour de nous. Marquer le territoire de Dieu. Kadosh Ata. Amen. cœur, d'entrer dans le royaume de Dieu, alors il écoute. Il écoute, il entend la voix de vos supplications. Qui parmi vous craint l'Éternel, écoute la voix de son serviteur? Dût-il marcher dans les ténèbres, ne voir luire aucune lumière, qu'il se repose dans le nom de l'Éternel, qu'il s'abandonne à son Dieu. Ésaïe 50, psaume 28. C'est vers toi que je crie, Éternel, mon rocher. Ne m'oppose pas ton silence. En lui, mon cœur a foi. J'ai reçu ton aide. Ma chair a refleuri. De tout mon cœur, je te louerai. Opposer la foi au silence de Dieu, c'est opposer la vie à la mort. Ainsi, la verge d'Aaron qui se maintient fleurie. Et c'est aussi la promesse d'espérance donnée au bois sec. Térébinthe au feuillage flétri, Ésaïe 1, traîné jusqu'au Golgotha, il est uni si intimement avec le bois vert, il refleurira. Infidèle par séduction, Israël s'est desséché. Tant qu'il demeure sous la colère de Dieu, le fils aîné a perdu le langage de l'éternité. Il ne comprend plus et ne se fait plus comprendre. Il puise l'eau d'en bas pour alimenter l'arbre d'en haut. Cette trahison a changé la race divine. Fils perverti, Ésaïe 1. L'Éternel entend la voix des supplications et comme un bon berger, il rassemble. Dieu d'Israël, Dieu caché, il fait le tri. Dieu sauveur, il cherche les brebis perdues de la maison d'Israël et les ramène dans leur pâturage pour qu'elles soient fécondes et se multiplient. Yeshua porte l'eau de la parole qui satisfait et l'huile de l'esprit qui guérit. Il élève en dignité. Le chêne, une fois émondé, il ne reste qu'un tronc, et leur tronc est une semence sainte. Psaume 22. Alors, la voix renforcée des supplications peut atteindre le trône éternel. Psaume 28. L'Éternel est une forteresse de salut pour son peuple. Bénis ton héritage, conduis-les comme un berger, porte-les à jamais dans l'éternité.
Be sure.
un ébattoir, mais le Très-Haut n'habite pas des demeures faites de mains d'hommes. Acte 7. Le Seigneur veut des adorateurs en esprit, en vérité. L'heure vient et c'est maintenant où les véritables adorateurs adoreront le Père. Dieu est esprit et c'est en esprit, en vérité qu'ils doivent adorer. Jean 4. Acte 7. Tout rempli de l'esprit, il fixa son regard vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Yeshua à droite de Dieu. Et tandis qu'on le lapidait, Étienne priait, « Seigneur, ne leur impute pas le péché. » En disant cela, il s'endormit. Romains 8. Qui se fera accusateur de ceux que Dieu a élus? C'est Dieu qui justifie. Qui nous séparera de l'amour du Mashiach? La tribulation? L'angoisse? La persécution? La faim? La nudité? Les périls? Le glaive? À cause de toi, on nous met à mort tout le jour. Nous avons passé pour des brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les plus grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni présents, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Mashiach Yeshua, notre Sauveur. Amen. Dieu est tendresse, que la maison d'Israël se le dise, éternel est son amour. Tenez-vous à l'écart des hommes qui n'a qu'un souffle dans ses narines, car de quelle valeur est-il? Ésaïe. Yeshua est venu nous ensemencer de l'Esprit éternel pour que nos désirs d'épouse soient toujours portés vers l'époux. L'Esprit et l'épouse disent « Viens !» Que celui qui entende dise «
Viens !»
Que celui qui a soif dise «
Viens !»
Que celui qui le veut reçoive l'eau de la vie gratuitement. Et alors là, je vais vous dire, il va essuyer toute larme de vos yeux. De mort, il n'y en aura plus, de pleurs, de cris, de peine. L'ancien monde s'en est allé et il fait l'univers nouveau dans vos vies d'abord, avant que le règne vienne éternellement s'installer.
On va passer dans la mesure du possible, très rapidement sur les annonces. Donc ceux qui doivent faire des annonces, vous venez, vous les faites, rapide, vous ouvrez grand les oreilles, c'est bon. Juste des nouvelles. Je ne suis pas encore sorti de l'auberge, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec un autre médecin. Le caillou, l'échographie de vendredi après-midi a révélé qu'il s'est planté à l'intérieur du rein. Donc, non, mais bon, à part les douleurs, ça va. Je prends même plus de calmants, j'ai tellement habitué. Ah, on ne m'entend pas de l'autre côté. Donc, vous demanderez à ceux de l'autre côté. Comme ça, vous pourrez vérifier s'ils ont bien entendu les annonces. Donc, il y a des moments où c'est pénible, surtout quand je fais un trajet en voiture où il y a des trous. Ça me fait bouger la sonde et en même temps, le... Voilà, c'est un petit peu difficile de ce côté-là. Mais autrement, j'apprends beaucoup. L'Éternel permet ça. Puis c'est... L'autre côté est très beau. Donc tout va bien, tout va bien. Il faut juste un petit peu prendre son mal en patience. Et après on verra ce qui se dessinera. Juste une deuxième annonce, là vous veuillez vraiment écouter, parce que des fois après on a des coups de téléphone où les gens nous disent on n'a pas entendu, on n'a pas compris, ou ça ou ça. Je dirais des fois c'est par manque d'écoute. Donc vous remarquez qu'on est dans des travaux. On peut bénir l'Éternel parce qu'une personne s'est proposée pour financer toute une première partie des travaux qui sont en relation avec le thermique, l'insonorisation, parce qu'on a eu quelques problèmes avec les voisins en haut et on risquerait d'avoir dans le futur davantage de problèmes. Donc il fallait quand même entreprendre quelque chose et on ne savait pas trop comment, toujours des questions délicates pour nous. Et l'Éternel a permis, donc je veux bénir la personne de l'Assemblée qui s'est proposée, qui nous a soutenus dans cet effort, mais en même temps s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui nécessitaient après examen et des murs et d'un ensemble de choses. Qui vont nécessiter des frais supplémentaires. Donc, on va rentrer dans une deuxième phase. Et il est important, si vous le souhaitez, je n'ai pas encore toutes les données chiffrées par des devis sur les différents aspects où on devrait être en conformité. Par exemple, les tuyauteries derrière, ça ne va pas du tout. Le mur est complètement, si on regarde derrière, il est complètement bombé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y avait des trous, il y a vraiment des malfaçons, on voit l'extérieur, enfin bref. Je vous passe certains détails. Donc voilà, si vous avez à cœur de soutenir ou d'aider dans les travaux, il y a pas, vous me connaissez, je n'ai pas d'obligation. Ça doit venir du cœur, c'est pour la maison de Dieu, parce que ça va vraiment devenir un lieu de consécration à l'Éternel. On entre dans une autre phase identitaire, spirituellement parlant, et l'Éternel nous a permis de pouvoir revoir un ensemble de choses qui vont vraiment aller dans le bon sens du terme. Et ça va être très important. Donc voilà, si votre cœur est avec Israël dans la construction de sa maison, nous ne pouvons que nous reporter la paracha de la semaine dernière, Terouma ou Trouma, peu importe. Trouma, ça peut être un hébreu plus ancien. C'est une question de... Voilà, en ce qui me concerne, si vous avez des questions, le seul devis que j'ai actuellement chiffré et d'environ 30 000 euros actuellement. Ça va s'élever un petit peu plus. Voilà. Donc, à votre bon cœur, monsieur, dame. Ici, ce n'est pas les restos du cœur, je sais. On n'a pas les mêmes artistes qui peuvent récolter beaucoup. Mais Dieu est bon. Oui, ce devis concerne, bon, il veut que je précise, mais ce devis concerne essentiellement le fait que on a un problème au niveau de l'air ici et qu'il faut impérativement mettre pour la sécurité depuis les canicules. Elle me regarde parce qu'elle est dans la sécurité, elle ne rate pas. Il nous faut impérativement quelque chose qui renouvelle l'air, un refroidissement d'air, etc., avec une bonne ventilation pour éviter tout problème en cas de pic de chaleur. Mais en même temps, quand on est nombreux d'un seul coup, ben, l'air ne se renouvelle pas. Hein, donc on a besoin d'avoir un peu plus qu'une VMC, quelque chose qui renouvelle vraiment l'air. Et en même temps, bien, ça s'intégrerait avec quelque chose qui serait meilleur au niveau et plus économique au niveau du chauffage. L'étude actuelle, on peut le faire en plusieurs étapes, mais l'étude actuelle qui semblerait convenir serait le système de pompe à chaleur RR. Donc voilà, avec isolation acoustique, il y a beaucoup de détails qui font que c'est un petit peu onéreux, mais après c'est un confort, été comme hiver. Cool. Plus d'éventail. Et plus de gros manteaux l'hiver. Eh, ça vaut le coup, hein? Alors l'étage plus tard. On ne peut pas tout faire à la fois, c'est trop onéreux. Ouais. Mais c'est prévu. C'est prévu, on sera de toute façon obligé d'envisager une solution. Voilà. Et il faut voir que les énergies renouvelables aujourd'hui sont quand même privilégiées. Ici, on est chauffé au fioul, donc c'est une catastrophe extrêmement chère. Donc voilà. Je vous soumets ça déjà dans un premier temps, dans ce que j'ai. Après, nous verrons le reste. Quand les devis seront bien établis, bien chiffrés, bien étudiés. Après, il y a des choses qui peuvent se faire par étapes. Voilà.
Je m'appelle Charlotte. Je voulais vous sensibiliser effectivement sur le... Pardon. Je voudrais vous sensibiliser sur le fait qu'il nous faudrait des personnes... les vendredis soirs à partir de 15h pour pouvoir installer les chaises. Normalement, il y a 5 personnes et ce n'est pas normal parce que nous sommes plus des 5 ici. Et ces personnes prennent leur RTT pour venir le faire. Donc, je pense que tout le monde peut le faire. Et ceux qui ne travaillent pas, ce serait aussi une occasion de pouvoir donner du temps au Seigneur. Parce que quand vous venez, effectivement, les chaises sont déjà placées et tout, mais venez en semaine, vous allez voir l'état, vous allez voir dans les conditions dans lesquelles elles sont entassées et le ménage qu'il y a à faire. Je crois que ce serait bien qu'il y ait un roulement, que ce ne soient pas les mêmes personnes, parce que les travaux, je pense qu'on en a encore pour longtemps. Voilà.
Oh, c'est une première annonce. Oui, il y en a pas pour énormément longtemps, mais quand même quelques temps. Et je pense que tous ceux qui se disent disciples de Yeshua Mashiach et voulant le servir, c'est d'abord d'être disponible et de venir et d'aider, de s'intéresser à la maison de Dieu. Si on ne s'intéresse pas à la maison de Dieu, le doute s'installe sur la motivation. Et je crois que c'est très important que, bien dans la mesure du possible, s'il n'y a pas de raison professionnelle, si le temps le permet, donc le temps libre, hein, je pense que c'est bien de venir donner un coup de main. Autrement, on laissera toutes les chaises là-bas, parole de Rav, et quand vous venez à Shabbat le samedi, c'est vous qui prenez votre chaise.
Oui, mais là, c'est tout le matériel.
Il n'y a pas que les chaises, il faut tout nettoyer, mettre la sono. Non, tout est enlevé là. Hein. Oui, mais là, c'est un autre problème. Les autres, ils enlèvent. Mais. Pour qu'on puisse avoir un Shabbat correct qui honore l'Éternel, voilà, je pense que les personnes passent, d'après ce que j'ai pu entendre comme écho, à peu près 4 à 5 heures hein, pour remettre en état. Donc, plus on est de personnes, et plus c'est court, et mieux, plus rapide, et et c'est agréable. Non ?
Pour le CEDER des Pessards, donc il y aura une feuille à l'accueil. Pour tous ceux et celles qui voudraient effectivement participer au CEDER en Suisse, l'hébergement est gratuit, mais il faut prévoir quelque chose pour vos hôtes. Il faut prévoir quelque chose pour les autres.
Oui, ne venez pas les mains vides en consommateur habituel. On ne devrait jamais dire cela. Mais venez avec pas seulement le cœur chargé, mais les bras aussi. Pas seulement de balises. Non, d'apporter une petite attention. Vous savez, les Suisses, c'est très sensible à ce genre d'attention. Mais pas grand-chose, je ne vous demande pas de dépenser 500 euros.
Le CEDER aura lieu le samedi soir, c'est ça ? Donc le CEDER aura lieu samedi soir. Là.
Alors, pour l'instant, je n'ai pas toutes les informations parce que la personne est en déplacement à l'étranger et elle a des problèmes donc avec les décalages horaires et les connexions. Enfin, mais bientôt, j'aurai un petit peu plus d'informations. Actuellement, on n'est pas loin de 20 personnes à participer au CEDER. Donc, il ne reste que quelques places. C'est-à-dire que dans une semaine, deux semaines maximum, si vous ne vous inscrivez pas, si vous n'êtes pas répercuté, répertorié, inutile après de dire « Ah, mais je voulais hein, ». Tu voulais, c'était avant. Donc, après, c'est impossible. Il y aura vraiment, et ça ne vient pas de moi, c'est une question de place, de respect, d'organisation. Par rapport aux personnes qui vont préparer cela, il sera impossible de s'inscrire, hein, d'être pris, quelle que soit la raison, la motivation, on ne pourra pas. Voilà. Donc, de façon à ce que les choses soient quand même bien établies, c'est les recommandations que l'on m'a données, qu'après telle date, eh bien, il n'y aura plus d'inscription prise, parce qu'il y aura beaucoup de monde. Je pense qu'on sera dans les 200. Donc, ça nécessite quand même de l'organisation.
La troisième annonce que je voulais
encore
faire. Oui, c'est la dernière.
Elle est utile.
En fait, oui. Il s'agit de notre temps de prière samedi. Alors, il aura lieu à partir de 10h30. Nous allons finir un peu plus tôt parce que c'est pourri et que il y a les jeunes qui...
Et on commence à 15h.
Donc, on va leur laisser une heure de temps pour qu'ils puissent se mettre en place. Donc, venez un peu plus tôt cette fois-ci, de façon à ce qu'on ait du temps conséquemment devant l'Éternel, c'est pourri. Donc, Esther, que Dieu vous bénisse.
Et cette année, elle est marquée par... cette fête, elle est marquée par le chiffre 70. Très important dans le concept hébraïque. Donc, Pourim commence à 15h avec tout un tas de choses et il y aura une surprise.
Le Shabbat Shalom, je veux enchaîner tout de suite sur Pourim. Voilà, je prends le relais. Donc, mercredi 4 mars, ce mercredi-ci, c'est le jeûne d'Esther. On ne le fait qu'un jour chez les Juifs, alors que dans la Bible, vous savez que c'est 3 jours. Et jeudi 5, c'est Pourim. Et nous le fêterons donc samedi 7 à 15h. Donc, nous fêterons, c'est une fête historique, elle rappelle l'histoire de la reine Esther et de Mardochée.
Mais ça, on le verra, ça, on le verra.
D'accord. Donc, je vais directement but. À Pourim, on a l'habitude de faire des oreilles d'Aman, Osné Aman, et on mange les oreilles de nos ennemis. Donc, amener des oreilles.
Non, c'est pas ne faites pas comme Pierre couper l'oreille du voisin.
Si vous voulez, j'aurai des recettes, si vous voulez. Et vraiment, si vous ne pouvez pas ramener des oreilles d'Aman, amenez au moins des boissons. Mais si tout le monde en ramène un peu, on pourra partager tous ensemble. Oui, pas que des boissons. Merci beaucoup.
Bonne journée. Bonne journée à tous. Dans un premier temps, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué pour l'association Tzedaka du Cœur, avec le financement, les denrées alimentaires et autres. Vraiment, il y a des besoins dans la Keïla, et je vous remercie de la part de toute l'association. Et dans un second temps, je vous sollicite de samedi 21 mars à la première assemblée générale pour toutes les personnes qui souhaiteraient adhérer à l'association, vous serez les bienvenus le 21 mars à partir de 13h30. Merci.
On compte pas le temps des annonces. Hein.
Oui,
non, mais il m'a communiqué. Et donc, il va vérifier si je dis juste. Il va y avoir... il y a eu... vous connaissez Moshe, qui nous a, par moments, et surtout envers certaines personnes un petit peu malmenées, de par certains travers, mais qui tout au fond n'est pas obligatoirement fondamentalement méchant. Et donc, c'est sûr que le personnage, c'est le personnage, mais c'est lié à sa situation relativement très précaire, qui l'amène à être révolté, à être amer envers beaucoup et les déceptions accumulées parfois avec les synagogues ou les rabbins, les choses comme ça n'ont pas amélioré son comportement. Et donc, sa mère a été décédée en Israël et lui n'a pu aller là-bas qu'un seul jour parce qu'il n'avait plus à manger, il ne pouvait plus rien faire. Donc, Abdel s'est proposé qu'éventuellement, si quelques personnes... si des personnes ont à cœur de donner un petit quelque chose, pas obligatoirement des gros montants, c'est pas ce que nous demandons, mais que nous marquions un geste envers quelqu'un qui est dans une situation de deuil à laquelle on ne peut pas rester insensible, quel que soit le personnage, mais qui se trouve et profondément meurtri, était très attaché à sa maman et il a besoin de pour l'honorer dans ce deuil où il n'a pas pu faire face financièrement. Donc j'en appelle de la part d'Abdel qui a reçu cette information. Si vous le voulez, je crois que c'est important que nous marquions parfois, au-delà de nos regards sur une personne, le geste du cœur. Voilà. Alors le 8 mars, on aura le cours de pensée juive. Et en même temps, bien, la fête de Pourim sera à 15h, hein, donc le 7 mars, à 15h. Voilà, il n'y a plus d'annonce.
Seigneur, je te remercie pour les offrandes, que tu bénisses toutes personnes qui ont pu apporter, ainsi que ceux qui n'ont pas pu apporter. Je te remets cette prière entre tes mains, que tu bénisses tout à chacun d'entre nous et que les travaux se déroulent ensemble. Amen.
C'est l'anniversaire, il n'y a qu'une personne, hein, c'est ça?
Oui.
C'est l'anniversaire de quelqu'un qui est dans la Keïla depuis très longtemps. Hein? Oui, hein? Elle est blonde, mais elle est mariée. C'est Sylvie Sauban. Et il lui a été attribué le psaume 37, verset 4. C'est bien ça?
Oui.
Ah. Cherche, alors je te la lis dans la version Zadokan. Dans la version Sauban, c'est fait de l'éternel tes délices. Hein? Cherche tes délices en l'Éternel et il t'accordera les demandes de ton cœur.
Ça change.
Ça change, hein? Et il y a qui déjà? Ah, Mandy. Mandy.
Elle est là-bas.
Qui fait aussi, qui vieillit, qui rejoint le club des aînés. Et puis Brigitte également. Il faut être un peu plus coordonné, hein, ça passe l'heure. Donc, elle a aussi. Il y en a d'autres. Alors, vous prenez toutes le même verset, qui est le verset du jour des anniversaires. Et en même temps, nous voulons vous remercier, vous bénir, et que cette année, cette bracha, soit pour vous, dans cette année où vous vieillissez un peu plus. Et c'est normal, ça fait partie de la vie. Et bien que s'éclaire le chemin, et que la vie s'adoucisse, au lieu de devenir encore plus amère. Il y a deux manières de vivre hein, son futur. Soit il s'adoucit, soit il devient encore plus amer qu'avant. C'est pourquoi cherche tes délices en l'Éternel. Qu'Hachem soit béni. Et il est vrai que dans ce qu'a dit Aré sur Tetzavé, c'est assez étonnant parce que ce n'est pas l'Éternel qui demande à l'homme de faire quelque chose. Dieu ne dit pas « Essayez de faire quelque chose qui corresponde, de vous habiller correctement, de faire des efforts sur votre tenue vestimentaire. » C'est, vous savez, c'est quelque chose qui va marquer quelque chose de plus profond. L'Éternel ne dit même pas à Moshé, il dit « Tu ordonneras. » Et « Tu ordonneras », c'est beaucoup plus fort que simplement demander. Ou dire de faire quelque chose. Tu ordonneras, quand ça vient de l'Éternel, c'est tu n'as pas le choix. C'est soit tu corresponds, soit tu ne corresponds pas. Et en même temps, lorsque nous entrons dans le mystère de Tetzavé, je suis conscient que c'est une paracha, comme tu l'as dit, Harry, et c'est vrai, ultra riche. On peut s'arrêter à chaque mot, chaque détail, chaque phrase. Tellement qu'il y a des profondeurs dedans. Et il est clair que nous ne pouvons pas traiter en peu de temps toute cette paracha ou tous les éléments de cette paracha. Elle a tellement d'enseignements. Mais en fait, cette paracha, pourquoi tu ordonneras ? C'est parce qu'elle nous introduit dans une particularité qui n'est pas simplement de parler de Dieu, de voir la gloire de Dieu, mais elle est liée aux règles du service de Dieu. Comment ? Et toute la paracha va être conditionnée par cet élément-là, cet élément clé, comment s'approcher de Dieu ? Comment Dieu se laisse-t-il approcher ? Est-ce que Dieu se laisse approcher par tout le monde, dans n'importe quelle condition, avec n'importe quelle attitude de cœur et de comportement. Et ce que l'Éternel veut dire en disant « Tu ordonneras », la réponse est non. Car il va donner des règles très précises pour être rencontré. Et c'est un terme en hébreu extrêmement fort. Parce que rencontrer, c'est quelque chose qui fait que normalement, à la base, l'éternité de Dieu n'aurait jamais dû rencontrer le chemin de Moshé et de l'homme. Mais là, il dit, tu me rencontreras. Et si vous lisez bien le contexte, vous remarquerez qu'il est associé à la fête de Yom Kippour. Et tu me rencontreras sur le propitiatoire entre les deux kérouvim. Et c'est une fois dans l'année que tu me rencontreras. Mais cette rencontre, elle a des règles. Et en même temps, elle nous démontre que tout ce qui va être lié au service de Dieu, comment servir Dieu ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup entendu dans nombre de personnes depuis X années, « Ah, je sers Dieu !» Et chacun dit de la manière, plus ou moins, comment il sert Dieu, c'est en faisant des choses, c'est en faisant ça, et il veut faire comme ceci, plutôt faire comme ça. Est-ce que cela correspond à la règle ? Et c'est toute la question de l'interrogation de la paracha. C'est de nous dire, mais quelles sont les règles que Dieu établit ? Et je crois que c'est très important parce que elle débute cette paracha par le fait de recevoir, c'est tu ordonneras, mais tu recevras. Il y a donc quelque chose où Dieu ordonne, et en même temps, cette ordonnance, c'est de recevoir des enfants d'Israël, comme tu l'as dit, de l'huile vierge pure. Ce qui veut dire non mélangé, sans corps étranger et sans aucune impureté. Et cette huile, elle doit être fabriquée parce que c'est quelque chose qui doit marquer l'intemporalité. Elle doit devenir une flamme perpétuelle devant l'Éternel. Donc, le « tu ordonneras » est lié à cette flamme qui doit être perpétuelle devant sa face et qui contient les 7 jours, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun jour d'obscurité, aucun moment où il doit y avoir une obscurité ou une présence de ténèbres. C'est-à-dire que le service de Dieu, c'est 7 jours sur 7 et pas 1 sur 2, pas saute-mouton. Parce qu'il y a des croyants qui sont croyants, pratiquants, les dimanches. Et la semaine, c'est des demi-pratiquants. En fin de semaine, ils ont fini de pratiquer. Et ils essayent de relancer. Donc, à un moment donné, il y a bien un ordre. Quelque chose qui doit être clair. Et la particularité, elle nous relance sur tout le niveau de la création que l'Éternel a établi dans un ordre très précis, concret, c'est que cette lampe ne devait pas éclairer du matin au soir. Ça, c'est ce que, malheureusement, beaucoup de croyants ont établi. Ils pensent que c'est du matin au soir, et puis qu'on recommence le matin, parce que le matin, c'est le jour nouveau, c'est le jour d'après. Et dans la Torah, dans le niveau de la création, c'est d'abord il y a eu un soir et après il y a eu un matin. Il n'y a pas eu d'abord un matin et après un soir. Il y a eu d'abord un soir et après un matin. Et lorsqu'il demande que la flamme soit allumée, il dit chaque jour, du soir au matin. Du soir au matin. Ça, c'est la cohérence de Dieu. Ce n'est pas quelque chose où l'on fait comme l'on veut, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, et finalement on essaie de s'en accommoder. Et lorsqu'on commence à entrer dans la deuxième approche de la paracha, c'est qu'elle concerne toute la dimension des vêtements, et les vêtements qui sont également les vêtements sacerdotaux. Alors, il devait porter des vêtements non seulement spéciaux pour le service dans le sanctuaire, c'est-à-dire que Dieu distingue l'habillement de tous les jours par rapport à une activité et tout ce qui le concerne lui dans une rencontre. Et ceci doit nous aider à comprendre que les vêtements sont les vêtements également qui doivent être portés dans l'intérieur de l'être, dans la Neshama. Car chaque fois que nous devons comprendre l'intervention divine dans le Mishkan, Dieu construit, Dieu donne à Moshe sur la montagne le modèle qu'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux, fait d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Il y a un modèle qui vient d'en haut, qui est reproduit ici-bas. Et en même temps, il veut dire que, en même temps que cette maison se construit, c'est la maison intérieure, c'est l'âme de l'être qui se construit dans le nouvel homme, dans l'homme qui sera racheté, pardonné, rétabli dans une relation avec Dieu. Car jusqu'à présent, cela n'existait pas. Le pardon du mal n'existait pas. Vous pouvez aller où vous voulez dans la Torah. Avant cet événement, le pardon du mal n'existait pas. Et à partir de ce moment où il va exister le pardon, et finalement la réconciliation ou la marche avec Dieu, eh bien, des règles vont s'établir. Et il faut bien comprendre que il y a les vêtements de l'âme. Les vêtements, l'âme est habillée ou elle est nue. Il y a une manière de s'habiller et de s'approcher de Dieu avec son cœur. Beaucoup trop de gens pensent que n'importe quelle condition, n'importe quelle tenue, n'importe quel endroit est favorable, que de toute façon Dieu est partout. Eh bien Dieu dit, lorsque tu entreras, tu t'habilleras de telle manière. Et là, il commence à préciser le nombre de vêtements qui devait revêtir le souverain sacrificateur, car il ne faut pas oublier une chose. Vous ne pourrez jamais comprendre l'œuvre de la rédemption réelle du Messie souverain sacrificateur sans comprendre ça. La première chose, c'est la kétonette, tunique de lin. Les mir nasayim, le pantalon de lin. Le mitz nefet, ou le mikbat, qui est le turban de lin. La abnet, qui est une longue ceinture portée au-dessus de la taille. Et en plus des habits du Kohen Agadol, il devait porter un éphod tissé de fils de laine et de lin, teint d'azur, de pourpre et de fil d'or. Tout ça, c'est le Mashiach. Un Hoshen, c'est-à-dire le pectoral, avec 12 noms, pas écrits, mais gravés. Pourquoi ? La différence entre l'encre et la gravure. L'encre s'efface avec le temps, elle s'altère, elle passe. La gravure ne bouge pas. Et ce qui est gravé, vous les marquez, le côté perpétuel des choses, le côté, si vous préférez, éternel des choses. Donc quand le souverain sacrificateur grave sur son pectoral les 12 noms, avec les 12 pierres, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour qu'il y ait une transition d'alliance, mais qu'elle soit reliée dans la dimension du Messie. L'Épître aux Hébreux est très clair là-dessus. Et vous pouvez faire le parallèle. Mais je ne vais pas m'étendre pour l'instant. Le Meïl, la cape de laine bleue avec des clochettes d'or et des ornements d'or en forme de grenade à sa lisière. Les tzit, c'est une plaque d'or portée sur le front avec l'inscription « Saint pour Dieu » Kadosh l'Adonai. Et il faut comprendre que cette paracha, elle va nous décrire de façon très détaillée les instructions de Dieu pour les 7 jours d'initiation. Il n'y aura pas ce qu'on pourrait appeler même un jour de repos de Shabbat. Le jour de Shabbat sera également l'accomplissement de toute l'initiation des 6 jours. Et que dans les 7 jours, il faut savoir que le service dans le temple ou le Mishkan ne sera pas 6 jours, 5 jours ou 4 jours. Il sera 7 jours sur 7. Et que notre Neshama ne s'arrête pas à des moments dans la semaine, en jour de repos. Mais il y a une activité continuelle. Et ce qui doit être très important en même temps, c'est de comprendre qu'il y a les 4 fils bleus qui sont en relation avec la Ketoret. Donc c'est ce rideau qui était juste entre le lieu très saint et le lieu saint, et qui devait être, le jour de Yom Kippour, imprégné d'un parfum d'encens spécial. Le souverain sacrificateur ne pouvait pas rentrer avec son odeur à lui. Il devait être imprégné de l'odeur du parfum que l'Éternel avait demandé. Et c'est ce qu'on appelle la Ketoret, avoir un parfum, mais également les mots, le cœur, la prière, tout dans notre vie doit avoir une odeur devant Dieu. Pas l'odeur du mal, pas l'odeur de ce qui constitue la méchanceté de l'homme qui vient essayer d'amadouer Dieu, mais de quelqu'un qui vient dans le parfum, dans quelque chose qui a une odeur agréable à l'Éternel. Et ça a quelque chose de très important, parce que très souvent, les personnes pensent qu'il suffit d'ouvrir la bouche et dire « j'ai prié et je suis venu n'importe comment, dans n'importe quel état de cœur intérieur, dans n'importe quelle attitude d'âme. » avec n'importe quel type de sentiment, je suis venu avec n'importe quel type de pensée devant la sainteté de Dieu, et je pense qu'il suffit de lui balancer ça, tout ça, en liste de prières, et que, ça y est, l'Éternel va me rétablir. Eh bien, il y avait tout un processus. Et ceci, la Kétorette, était le dernier processus avant d'entrer dans ce lieu une fois par année. Et cela veut dire que très souvent, eh bien, il y a une préparation à avoir du cœur pour s'approcher de Dieu. Dieu est saint, nous sommes malsains. Et pourquoi Dieu donne toutes ces règles? C'est pour qu'on puisse s'approcher afin de recevoir. Et je crois qu'aujourd'hui, on a perdu de vue dans nombre d'enseignements, dans nombre de lieux, cette dimension de la sainteté, de s'approcher de Dieu, dans le pardon de Dieu, mais à cause du mal. Et pas comme quelque chose qui doit être transformé en psychologie humaniste. De simplement essayer de définir quelles sont les causes de ce qui nous fait souffrir. Mais de bien savoir que le mal est la cause de la souffrance et de la destruction de l'âme. Et que seul l'amour et le pardon de Dieu peut réparer, restaurer la neshama. Et que rien, aucun instrument humain, ni même psychologique, ne peut restaurer, réparer la neshama brisée de l'Éden. Et que c'est ce que nous appelons le salut ou la rédemption. Que quelque part, l'homme a besoin de devenir réparé. Autrement, il se cassera. C'est-à-dire, il se casse année après année. L'âme se détruit, se flétrit de jour en jour. Plus le mal nous habite, plus la destruction fonctionne et se répand et grandit. Quelqu'un qui devient méchant, il devient toujours plus méchant. Quelqu'un qui est amer, il grandit dans l'amertume. Et en hébreu, on dit, il amplifie son amertume au point qu'elle se déverse et qu'elle tue son environnement. Elle blesse l'environnement. Elle ne guérit plus l'environnement. Combien de croyants aujourd'hui guérissent les autres? Combien de paroles sont des paroles qui adoucissent le cœur meurtri? Combien de personnes arrivent à amener la bonté de Dieu dans la terre aride de la douleur et de la souffrance? Et il y a tellement de choses où les gens sont dans la théorie simplement parce qu'ils pensent qu'il suffit de faire certaines méthodes ou de dire certaines paroles ou de se conformer à certains rites. Et il est oublié qu'il y a des choses qui sont des règles. Tu ordonneras, tu le savais. Et cet habillement nous démontre que il a une relation, il n'est pas indépendant. Ce n'est pas ce que Aréa dit tout à l'heure ou lu tout à l'heure. Et puis après, on passe à une autre étape. Tout est lié. Et il faut comprendre que si Tetzavé commence par cette ordonnance de l'huile pure, c'est qu'elle conditionne tout le reste. Tout le reste est conditionné par cette huile pure, vierge, pour allumer. Même pas, en quelque sorte, quelque chose qui doit rester simplement visible comme un objet de musée. Mais qui aura une fonction d'éclairer, la fonction d'éclairer un lieu. Et je crois que tout ceci est en relation avec la lumière de la menorah, comme je vous l'ai dit, qui doit briller 7 jours sur 7. C'est la base. Et il n'y a pas un seul jour, je le répète encore une fois, qui doit être ténèbre, ni obscur, mais lumière. Et ça, c'est l'enseignement du Messie, de Yeshua. Il a plus enseigné la lumière par rapport aux ténèbres, et il a dit que les ténèbres ne devraient jamais nous habiter si nous avons la lumière de la vie. Et que quand on a la lumière d'en haut, la lumière de la vie, la lumière de son malchut, de son royaume, nous ne devons pas être habités par ce qui détruit, mais par ce qui bâtit, construit, édifie, grandit. Et c'est ça être la lumière du monde. Ce n'est pas être dans un espèce d'éclairage de connaissances théologiques, humaines, ou de connaître des versets bibliques par cœur. C'est d'être en soi quelqu'un qui porte en lui le témoignage de la Ruach HaKodesh, qui porte en lui le témoignage du Messie, mais qui vit dans le Messie, et qui a un concret de vie, et qui veut dire que il a en quelque sorte vaincu, éliminé un certain nombre d'éléments qui le détruisent. Comme tu l'as dit tout à l'heure, l'orgueil, et il y en a beaucoup d'autres. Et imaginez, et essayez de vous imaginer peut-être plus exactement, une communauté de 300 hommes ou de 5000 hommes qui suivent les commandements de Dieu, qui ont travaillé une année pour que le mal soit ôté de leur vie personnelle déjà. Que le lashon hara, la médisance, la mauvaise parole sur l'autre, la parole qui juge l'autre, la parole qui condamne, donc qui enferme l'âme de l'autre, qui la rend prisonnière du mal que l'on fait peser sur lui. C'est ça la critique. Mais la lashon hara va plus loin. Et il empêche d'avoir part aux bénédictions. Ne croyez pas, à certains égards, que le lashon hara, Dieu n'en tient pas compte. Il bloque la bénédiction chaque fois que la parole elle devient une parole qui détruit l'âme de l'autre, on se détruit soi-même dans son futur avec Dieu. Une communauté qui meurt, c'est une communauté, non pas qui s'est battue avec des armes, mais avec la langue. Chaque fois qu'il y a eu des disputes dans une synagogue, ou dans une assemblée, ou même dans une famille, elle a détruit celle-ci. Et ce ne sont pas la violence physique, toujours. Ça accompagne. Il y a toujours, avant la violence physique, les mots. C'est d'abord verbal, hein, si on veut bien. Ce n'est jamais d'un seul coup, tu arrives sans explication, boum boum, tu tires trois coups de poing, puis l'autre dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, on ne sait pas. C'est pas ça. C'est d'abord, il y a une dispute de mots, la colère monte. Il y a quelque chose qui est en train de dégénérer. Et après, il y a l'acte de violence. Mais au travers de cela, nous devons comprendre que ça va encore plus loin dans la pensée de Dieu. Parce que quand il y a eu le lashon hara, hein, sur justement la direction que Dieu voulait donner au travers de Moshe et Aaron pour entrer dans les pays de la promesse et bénéficier de ce temps, ça a été la cause du jugement de ne jamais rentrer dans les promesses de Dieu. Cela veut dire que chaque fois que Dieu a un plan pour notre vie, nous pouvons l'annuler à cause de notre langue. Si vous estimez que ce n'est pas grave, continuez. C'est votre chemin de mort, ce n'est pas le mien. Moi, je ne vais pas l'épouser. Et ceux qui respectent Torah à Emet ne le subiront pas. Mais ceux qui vont le faire verront qu'à un moment donné, ils sauront de moins en moins où ils en sont, auront de moins en moins de clarifications et auront de moins en moins de bons sentiments dans le cœur. C'est ça le danger. Et la bénédiction s'éloigne. Et chaque fois que l'on revient, Dieu bénit. Alors, tout ceci nous amène à comprendre le sens de sa présence. Le respect de sa présence, c'est bénir. Le respect de sa présence, c'est de se bénir. Mais c'est de bénir l'autre, c'est de bénir le peuple, c'est de bénir autour de soi. C'est ça, être une bénédiction, une source de bénédiction. Ce n'est pas simplement, merci Seigneur, tu m'as béni, j'ai gagné de l'argent, j'ai touché le loto. D'ailleurs, vous pouvez donner une dîme si vous avez touché le loto. Ça fera plaisir. J'ai gagné à la loterie, j'ai pu m'acheter une voiture. Ça, c'est la bénédiction matérielle. Ok. Dieu est béni, c'est bien, tu es content, la voiture, elle fonctionne pendant quelques années, puis après, il faut la changer. Dieu t'a béni là, c'est bien. Tu as pu, c'est bien. Mais Paul nous parle aussi de quelque chose où il y a des bénédictions spirituelles. Est-ce que là, on peut les nommer. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, j'ai vraiment, là, je peux parler de bénédiction spirituelle. Où est-ce que nous sommes pauvres en bénédiction spirituelle? Alors, ce que je voulais dire, imaginez une communauté qui fonctionne selon Tsetsavé, qui habille son âme de la présence d'Hachem. Le lieu est habité de la bonté, la gloire. C'est tout. Il n'en faut pas plus. Il n'en faut pas plus. Il y en a qui pensent qu'il faut jeûner 40 jours. Ok, ça peut aider. Mais Dieu n'a jamais ordonné de jeûner 40 jours pour obtenir sa force et sa puissance. Jamais. La plus grande puissance, c'est le pardon de Dieu accordé aux hommes. Et toute la démarche est là. Alors, le but, c'est que, quelque part, nous avons dans ces six jours un défi qui est lancé, parce que c'est un défi où nous ne sommes pas dans le, pardonnez-moi l'expression, cultuel. On n'est pas dans quelque chose où on est dans l'adoration, la prière, l'étude biblique, le ressourcement. C'est pas quelque chose où on est baigné, comme ça, du matin au soir, six jours par semaine. On est dans un environnement plutôt hostile. Mais Dieu ne nous a jamais dit que nous serions dans un environnement où il n'y aurait pas d'hostilité. Mais c'est là que le témoin doit évoluer. C'est dans l'hostilité qu'il va révéler la lumière de Dieu. Si il est aussi pourri que ses collègues au travail, il peut venir et dire « Merci Seigneur, c'est bien, c'est poli ». Il y a un petit peu de reconnaissance, mais ça ne change pas sa vie. Ça ne va rien changer à sa famille. Et ça ne change pas son environnement. Mais écoutez bien, si tout change de ce côté-là, la gloire et la bonté de Dieu amènera le changement. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a une grande facilité à dire du mal sur n'importe quoi dès qu'on est un petit peu blessé, vexé, pas compris, machin. Écoutez, ces vexouilleries, oui, on invente ça, doivent cesser. Dieu ne va pas passer son temps à venir nous consoler de nos vexouilleries. Et nous devons grandir. Grandir, devenir même des géants et pas des nains. Alors vous allez comprendre pourquoi, parce que il nous faut atteindre le septième jour qui est le jour de la pleine lumière. Et tout le but de ce que il a été dit dans Tsetsavé, c'est de devenir quelqu'un rempli de toute la lumière, habité dans la lumière. Et la lumière, c'est cette présence de Dieu parce qu'elle est le Shabbat, elle donne le repos à l'âme. De ces six jours où nous sommes dans le souci, le tourment, la confrontation, la difficulté, le septième, c'est le règne de Dieu. Et il nous amène très loin. Et plus on va loin, eh bien, il y a des choses extrêmement riches et extraordinaires. Parce que je ne suis pas encore entré dans l'enseignement. Mais on y arrive. Et on doit toucher quelques aspects. Alors c'est vrai que j'aurais pu, et je me doutais que quelqu'un aurait dans la paracha touché le premier niveau là, de la menorah. C'est normal. Et je me suis dit, il faut prendre les autres niveaux. Mais j'aurais pu prendre tout. Et je me disais, mais là, si on avait beaucoup de temps d'études, je vous promets qu'on serait dans la gloire de la gloire de la gloire. Tellement qu'il y a une profondeur et une richesse et qui nous révèle Mashiach comme jamais. J'ai découvert Mashiach dans une nouvelle dimension par Tsetsavé. Découvert le Messie de gloire, pas le petit Messie gentil, sympathique, qui fait le chemin d'Emmaüs. Mais après, il part. Donc même s'il fait un chemin d'Emmaüs avec toi, il faut savoir qu'après, il part. Et toi, tu es fait tout seul. et que tu dois continuer la route. Découvrir le Messie, c'est extraordinaire. Et il y a pourtant des choses que nous avons mentionnées dans cette tenue vestimentaire différente. Il est parlé du fin lin. Du fin lin pour le revêtement dans le service de Dieu. C'est quelque chose que Dieu demande à Aaron et à ses quatre fils pendant 7 jours. Et leur demande pour qu'ils puissent savoir comment fonctionner dans le futur, comment s'approcher de Dieu, comment vivre la présence de Dieu pour l'apporter, pour donner toute la plénitude et la dimension dans le cadre du peuple. Et dit, voilà, le fin là. Le fin là. C'est-à-dire qu'il y a les objets du culte, tous les objets, et il y a le vêtement, ce que l'on porte sur soi. Et le vêtement définit l'identité d'un être. Et il parle beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Et beaucoup de problèmes sont révélés au travers de la tenue vestimentaire. On peut voir quelqu'un qui ne s'aime pas, qui se déteste à sa tenue vestimentaire. On peut voir quelqu'un qui est léger dans sa vie, dans sa relation avec les autres par la tenue vestimentaire. On peut voir également quelqu'un qui cherche à cacher son intérieur par la tenue vestimentaire. Le vêtement est quelque chose qui est lié à nos différentes identités dans la vie. Et nous avons différentes manières de nous habiller dans notre existence. On ne s'habille pas de la même manière quand on a 15 ans que quand on a 55 bientôt. Là maintenant, madame, elle veut que j'ai costume, cravate, pantalon joli, machin, fini jean. C'est fini. Et quand j'étais dans les périodes rebelles, ben, j'avais une tenue vestimentaire qui reflétait tout de suite les tontons poulets. Ils me repéraient. Parce qu'on se démarque. On se démarque. Et la tenue vestimentaire identifie. Après, il y a tous les costumes qui sont liés aux traditions, aux cultures, aux coutumes, et qui reflètent l'histoire, mais qui ne sont pas portés tous les jours. On ne s'habille pas en breton tous les jours. Ce serait peut-être un petit peu difficile pour aller travailler. Mais voilà, pour juste donner un sens, il y a quelque chose d'extraordinaire parce que ce revêtement que l'Éternel veut pour le souverain sacrificateur, c'est que le « tu ordonneras », c'est pour la sacrificature. Ce n'est pas n'importe quel niveau spirituel. Mais également, c'est quelque chose qui va révéler un haut niveau spirituel, celui qui peut amener le pardon dans le peuple. La grâce de Dieu sur l'autre. La bonté de Dieu sur l'autre. Alors que l'autre est dans le mal. Et toute une communauté peut changer, complètement être transformée par l'application simple. Alors quand on va commencer à rentrer, c'est que non seulement les vêtements ont un sens, une explication profonde, mais comme je vous l'ai dit, distinguez bien les habits ordinaires lorsque vous rencontrez les autres, le patron, etc., et lorsque vous allez vers Dieu. Vous n'avez pas les mêmes vêtements extérieurs et intérieurs. Lorsque vous êtes avec l'autre, vous pouvez cacher, vous pouvez vous mettre derrière quelque chose qui n'est pas visible à l'intérieur. Et vous pouvez tromper la personne en vous habillant d'une façon qui ne reflète pas qui vous êtes aussi et qui peut tromper. Mais lorsque l'on vient devant Dieu, alors à ce moment-là, il faut les habits du cœur. Et ceci veut dire qu'il y a les habits de l'âme, mais l'habit du cœur. Qu'est-ce que revêt notre... Comment est habillé notre cœur? Est-ce que notre cœur est habillé de la méchanceté, de l'amertume, de la rancœur, la rancune? Et ceci peut durer des années. Elle ne diminue pas. Alors on essaye toujours d'évacuer, d'excuser. Et on cherche aujourd'hui toujours à être excusé dans son comportement. On est toujours dans un niveau le plus bas du pardon, qu'est slicha. Où on est dans « excuse-moi, je n'ai pas fait exprès ». Et on est loin du plus haut niveau du pardon, qui contient 7 termes dans le terme pardon, qui amène la grâce de Dieu. Et lorsque on veut cheminer, il faut sortir de slicha, de chercher l'excuse du comportement. Je me comporte comme ça, je suis le premier à pouvoir le faire aussi, avec tout le vécu, toutes les injustices, avec tout ce qui m'est arrivé dans la vie. Mais n'importe qui peut dire, mais si je suis devenu comme ça, j'étais pas comme ça, mais si je suis devenu comme ça, c'est parce que on a dit tellement de choses pour sur moi, on a tellement fait ci, on a tellement fait ça. Et finalement, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il s'est habillé d'amertume. Et que, quelque part, il veut être excusé dans son comportement. Donc il va, même avec un pasteur, même avec un psy, même avec d'autres personnes, il va chercher quelqu'un qui le comprenne pour être excusé. Pour qu'on lui dise, mais tu sais, c'est la faute de papa et maman, l'accident de poussette à l'âge de 3 ans, le virage qui a été mal pris, qui t'a donné le mal de mer, et etc. Après, ben, c'est les enfants qui ne t'ont pas compris à l'école, la maîtresse n'était pas gentille, ça peut être vrai. Mais bon, à un moment donné, tout devient une excuse. Et puis après, quand on grandit bien et que l'on se marie, eh bien, on va toujours pas bien, mais c'est la faute du mari, toujours. C'est toujours la faute de quelqu'un. Ce n'est jamais soi, c'est toujours l'autre. C'est toujours l'autre le fautif du mal. Et qui fait que je suis comme ça, mais c'est pas parce que je le veux, mais c'est parce que je suis obligé. C'est à cause des autres. Vous comprenez, ils ont tellement été méchants, ils ont tellement été durs, ils ont tellement été méprisants, ils m'ont tellement fait de mal. Aujourd'hui même, vous voyez des enfants, par le harcèlement à l'école, sur l'image projetée, regardez bien, les images projetées, qui sont des images parfois détournées, manipulées. Donc vous avez des jeunes, très jeunes même, des adolescents qui se suicident, parce qu'ils ne peuvent plus supporter ce regard. Ils n'osent même plus sortir de chez eux. C'est des blessures psychologiques, profondes. Ce sont des blessures internes et qui mettront beaucoup de temps à guérir et qui pourraient justifier le fait qu'ils ne veulent plus rien avoir avec les autres et que la confiance est au niveau zéro. Mais quand on connaît la recette de Dieu, le pardon de Dieu, eh bien, à un moment donné, il nous amène à nous élever au-dessus de la blessure pour atteindre le plus haut niveau du pardon. Tel est le parcours même du croyant, d'aller au plus haut niveau du pardon. Pas de dire, je vous prie de m'excuser si je viens dans votre assemblée, je serai ceci, je serai méchant, je serai un mauvais parleur, je critiquerai tout le monde. Vous savez, j'ai tellement été blessé dans les églises que ne vous attendez pas à ce que je sois le meilleur des disciples. Remarquez, c'est vite vu, il est plus membre. Ah, on ne peut pas faire ça. Il y en a plein qui font ça. C'est, si j'y viens là, c'est pour devenir le meilleur disciple. Celui que j'ai jamais pu être. Alors on va plus loin. Distinguer les habits ordinaires de ceux du Kohen Agadol. S'élever dans son niveau spirituel. Le lin. Pourquoi le lin? Alors on va voir juste quelques petites généralités. C'est une plante qui provient de la terre, comme l'être humain vient de la terre. Et le lin est à la base de couleur noire, noire, noire. À la base, le lin est noir. Et c'est quand il a poussé, et après un traitement, et après différents procédés, il devient blanc, pratiquement blanc. Il change de couleur. Et on pourrait dire que chacune de ces étapes pourrait être à elle seule des enseignements. La couleur noire, la terre, et puis quand il pousse, quand il s'élève, et après avoir été traité, donc avoir passé par des procédés pour devenir comestible, il est blanc. Et ceci veut dire que chaque fois que le souverain sacrificateur va revêtir le fin lin de pur, quelque chose qui ne sera pas mélangé à un autre céréal, ça veut dire que avant qu'il ne devienne ce qu'il doit être à sa maturité spirituelle, ce que Dieu avait prévu dans le temps de sa croissance pour l'homme, et qu'il atteigne le niveau de maturité spirituelle, il doit passer par un procédé qui va le faire partir de son niveau le plus humain qui soit, le cœur de chair, l'attitude de l'homme qui vit dans le comportement de chair, afin de devenir quelqu'un qui devient un cœur selon Dieu. Et au fur et à mesure des étapes, lorsque le Seigneur permet justement d'avancer, il va y avoir des processus de dépouillement intérieur. On ne va pas changer sa nature simplement parce que on demande à Dieu de la changer. Je ne sais pas comment vous priez, mais ce n'est pas comme ça que ça se réalise. C'est que Dieu va faire en sorte que des événements vont se produire dans notre vie pour nous dépouiller. Mais c'est là qu'on commence à sortir les lances et les javelots. Les boucliers, les épées, les coups de boule avec les casques et toute arme pour justement... Alors il y en a qui mettent des hautes protections prières. Qu'on soit protégé de toutes les attaques de l'ennemi. Chaque être humain, chaque situation, c'est Satan, c'est le diable, c'est l'ennemi qui veut me détruire. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est le diable qui se déchaîne là-bas en haut. Oh. Pense un peu à un processus de transformation. Parce que c'est ta résistance à toi qui est le blocage. Alors, on va plus loin. Et je vais prendre un aspect relativement court au vu du temps. Mais si on devait toucher la profondeur et aller plus loin, ce serait extraordinaire. On va prendre la ceinture de lin. Il est dit au souverain sacrificateur qu'il doit avoir une ceinture de lin au-dessus de la taille. Alors c'est dans Lévitique au chapitre 16, Vaïkra, où il nous est dit quelque chose de très intéressant. Et on peut s'élever, oh là là, vous allez voir que tout constitue quelque chose d'extraordinaire, qu'il n'y a pas de hasard et qu'il n'y a pas de choses négligeables. Eh bien,
c'était quoi la référence ?
Lévitique 16, verset, normalement c'est le 4. Non, on va apprendre à partir du verset 2 à cause des traductions qui sont différentes. Et il dit à Moshé, signifie à Aaron ton frère qu'il ne peut entrer à toute heure dans le sanctuaire, dans l'enceinte du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, s'il ne veut encourir la mort, car je me manifeste dans un nuage au-dessus du propitiatoire. Voici comment Aaron entrera dans le sanctuaire. Il entrera avec un jeune taureau comme expiatoire et un bélier comme holocauste. Il sera vêtu d'une tunique de lin consacrée, un caleçon de lin couvrira sa chair, une écharpe de lin le ceindra, c'est ça la ceinture, hein, et une tiare de lin sera sa coiffure, c'est un costume sacré. Il doit se baigner dans l'eau avant de s'en vêtir. Et ça nous met directement en relation avec la fête des Yom Kippour. Et il nous faut vraiment le comprendre dans ce vrai sens-là. Il est vrai que chaque détail mériterait d'être analysé. Alors, il faut tout d'abord comprendre que l'Éternel dit « Parce que je suis présent là, sur le propitiatoire par un nuage, tu ne peux pas rentrer comme ça. Tu dois te revêtir. » Et il y a tout un processus pour le rencontrer. Et il est dit en hébreu, il se revêtira. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement pour le moment, mais ce revêtement doit revêtir tout son futur. C'est-à-dire qu'il change de nature à partir du moment où il va officier entrer dans ce lieu. Cela veut dire que chaque fois qu'il doit rencontrer Dieu avec son cœur, avec sa pensée, ou de manière physique, c'est le futur. Vous savez pourquoi ? Parce que ses fils et toute sa descendance seront les sacrificateurs du futur. Jusqu'à l'avènement du Mashiach. Et que c'est le Mashiach qui deviendra le souverain des souverains sacrificateurs. Mais quel est le rôle d'un souverain sacrificateur ? Si j'ai posé une fois la question à des étudiants en école de théologie, et je leur ai dit, en quoi consiste Jésus, Yeshua, souverain sacrificateur? Dans quelle sphère cela se produit-il? Humainement, il n'a jamais été. Sur terre, jamais. Il n'y a qu'un niveau sur terre qui a été profondément réalisé. C'est d'abord celui de parole de l'Éternel. Le deuxième niveau que l'on peut donner comme un événement simultané à l'autre, c'est qu'il est l'agneau de Pessah, mais qu'il est appelé notre rédemption, et qu'il a été élevé aux cieux. Mais il a été élevé pas, et écoutez bien, pas comme fils de Dieu, ni comme sauveur. Il a été élevé comme souverain sacrificateur, hébreu. Il est notre souverain sacrificateur dans les lieux célestes, et c'est lui qui intercède devant le Père, devant la face du Père pour nous. Il a été élevé, et il reviendra comme Meler Israël, comme le roi d'Israël. Les trois niveaux sont accomplis dans le Messie. Et il est clair que dans la descendance même du Messie, quand on l'a étudié, nous avons vu au travers des différents argumim que le Messie est aussi un Messie sacerdotal. Que le Messie rédempteur, ce n'est pas simplement un Messie sauveur qui est descendu du ciel comme le Papa Noël et qui vient nous apporter le plus beau des cadeaux, sa vie, et puis qui va mourir, et puis voilà. Et tu dis merci tous les dimanches. D'autant plus que dimanche, ça n'existait pas à l'époque. C'est pas ça. Il y en a qui croient ça. Mais c'est pas ça. Alors ça veut dire quelque chose qu'il nous faut le relier à quelque chose. Pourquoi Dieu demande d'être revêtu? Est-ce que cela avait vraiment une importance capitale de vouloir se distinguer dans un désert? Pas spécialement. Mais il se revêtira, sans que l'on entre profondément dans les détails, on va le mettre en relation avec ce qui s'est passé dans le Gan Eden. Et il y a deux choses, deux manières de s'habiller, une qui se cache devant ce qui est éternel devant Dieu, et une qui se laisse revêtir dans la rédemption. Et la première, c'est que quand il y a eu la faute, l'homme s'est dissimulé. C'est caché, c'est mis derrière quelque chose, c'est dissimulé devant quelque chose qui faisait qu'il ne devait pas être vu. Et à un moment donné, nous avons vu que le cri de Dieu était « aillé » ou « est faux ». Ce n'est pas du tout les mêmes termes. Et quand il dit « où es-tu ?» et il dit « je me suis caché ». Et ça, c'est le vêtement. Le sens du vêtement, c'est « je me suis caché ». Le sens profond du vêtement de l'âme, c'est « je me cache ». De l'autre. Je me cache par peur. Je me cache parce que je ne veux pas être vu dans ce que je suis et dans ce que je suis devenu ou dans ce que je deviendrai. Et Adam et Chava, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Ils avaient cousu des feuilles de figue pour cacher le deuxième élément qui était la nudité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est beaucoup plus profond, parce qu'ils se cachent, ils se dissimulent, et ils sont donc coupés. On voit que là, Dieu dit, où es-tu, Aïe, où es-tu? Tu n'es plus dans mon présent, tu as disparu de ma vue, alors que jusqu'à présent, tu étais là, et je te voyais. Non, non, non. Mais, à un moment donné, où es-tu? Où es-tu dans le temps? Où es-tu dans la dimension du temps maintenant? Tu es perdu. Tu es quelqu'un que je ne retrouve plus, qui ne peut plus être retrouvé. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Dès que Adam et Chava répondent et qu'il y a les trucs de figues là, au moins on sait qu'il y avait des figuiers là. Eh bien, il y a quelque chose, c'est que c'est Dieu lui-même qui va les revêtir de peau de bête. Et c'est seulement après qu'ils seront chassés. Et le mystère, c'est Dieu revêt. Et il n'a pas accepté les feuilles de figue, mais Dieu revêt de peau de bête. Et Yom Kippour, tout ce qu'on vient de lire, est en relation. Alors, bien sûr que on va donner le sens très rapidement, je ne peux pas donner tous les détails maintenant, mais le sens c'est quoi? Dans ce que nous avons lu dans Vaïkra au chapitre 16, d'abord il fallait que les animaux, il fallait qu'ils se purifient en faisant un sacrifice, non? Vous avez lu avec moi là? Vous êtes sûr? Vous avez la Bible? Que doit faire Aaron? Il doit offrir un sacrifice pour le péché, pour le khatat. Et vous avez remarqué, pour ce qui sépare, pour ce qui condamne l'homme vis-à-vis de Dieu. La deuxième chose, il se revêt pour pouvoir entrer. Et il doit se purifier. Il y a toutes les étapes. Et donc, c'est le même sens que être revêtu après le mal, après la faute, après le péché. Le péché, tel qu'il est décrit dans la Torah, c'est tout ce qui nous fera manquer notre futur en Dieu. Nous pouvons réussir humainement et rater notre éternité en Dieu. Et tout l'enjeu est là. Où es-tu? Dans quelle voie? Dans quelle orientation tu vas te trouver? Et tout l'enjeu va être là. Et ce passage est en relation, comme on l'a vu, avec Yom Kippour, du Gan Eden. Alors, lorsque nous voulons rentrer plus loin, il nous faut voir toute la dimension de la rédemption dans le Messie que je n'aurai pas le temps de développer là. Mais il faut savoir que dans tout l'Apocalypse, le lin est présent. Et que lorsqu'on parle du Mashiach dans Daniel, Ézéchiel, Ésaïe et Apocalypse, et dans bien d'autres passages, il est toujours dit l'homme vêtu de lin. Pas vêtu d'un autre vêtement, l'homme vêtu de lin. Donc, le vêtement de lin, c'est les vêtements du salut. Non? Il est tard, je comprends. Alors, je vais juste donner quelques détail, la ceinture de lin signifie ce qui donne une résistance et maintient tout l'ensemble. Alors, si on le traduit dans la pensée d'Israël rabbinique, telle qu'on peut l'étudier, mais dans les profondeurs cachées des écrits, il veut dire que il prendra sa force de la ceinture pour ne pas revenir en arrière, c'est-à-dire afin que toute sa vie, tout son corps, toute son orientation, tout ce qu'il est en train de faire ne se relâche pas dans le futur. Qu'il marche d'un pas ferme dans le futur réellement revêtus du salut constamment chaque jour, sans se détourner ni à droite ni à gauche. La ceinture est donc une force, ce qui veut dire une force de résistance au mal. Et on dira par rapport à Yeshua, à la tentation. Yeshua a refusé toutes les tentations, celles du début jusqu'au moment de l'expiation. Et c'est ce qui fait qu'il a été revêtu de l'incorruptibilité. C'est ce qui fait qu'il a été revêtu d'une force qui lui a donné la force d'accomplir. La force spirituelle, c'est ce qui l'a élevé. C'est parce que, à un moment donné, il a refusé. C'est parce que il a refusé d'être ce que aujourd'hui tout le monde recherche à être reconnu comme une victime. Yeshua ne s'est jamais considéré comme une victime dont le jugement a été injuste. Il a dit « Je donne » pour que nous soyons, que nous puissions être sauvés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là que nous devons prendre toute la dimension de la ceinture qui est une force. Parce que, regardez, la ceinture, ce qui maintient l'ensemble de la rédemption, ce n'est pas simplement des théologies, des traditions, des dogmes, des croyances, des convictions, tout ce que vous voulez. Ce sont des actes. Ce qui produit l'attachement, ce sont des actes. Et quand on commence à parler de la ceinture, elle nous parle de ce qui attache l'homme, qui maintient tout bien coordonné, parce que ça devait être très important que tout soit bien maintenu. Et l'attachement, c'est quelque chose qui signifie que il y a une croissance dans l'amour. Ah, il est impossible de dire j'aime quelqu'un si on n'y est pas attaché. Jonathan ou David étaient attachés à la neshama de Jonathan. Et Jonathan à chaque fois à sauver la vie de David. Alors qu'il savait que David était sa mort à lui dans le futur. Et que si Jonathan aurait voulu une vengeance familiale, il aurait tué David pour avoir le trône. Combien d'entre vous auraient choisi de sauver la vie de David pour qu'il rentre dans son appel, pour qu'il rentre dans la royauté du Messie? Et que Jonathan a renoncé volontairement à la royauté du Machiar, à la lignée du Messie, parce qu'il était attaché à David. Ça, c'est le niveau le plus élevé de l'amour que Paul, allez, je vous le traduis en grec, agapeo. Ça me fait toujours penser au galop. Et c'est très important. Parce que ce n'est pas le petit niveau affectif, un petit sentiment passager qui dure le temps d'un instant de l'appréciation. Mais on voit que Jonathan a suivi le cheminement. Et à chaque fois, il le délivre de Shaoul. Et que, quelque part, moi, Jonathan me touche dans le profond de mon cœur. Parce que quelqu'un qui renonce comme ça, c'est pas humain, quelque part. Et l'attachement que nous devons avoir à Dieu, c'est exactement ça. Et lorsque nous parlons de Dieu et que vous dites « j'aime Dieu », des fois, est-ce que vous y êtes attaché? Vous aimez Dieu pour ce qu'il donne, pour ce qu'il peut vous procurer, vous apporter, vous donner comme bénédiction, guérison et machin, et réponse bien-être, l'effet zen. Hein? Petit Bouddha. Mais il y a quelque chose qui est plus fort, l'attachement. Et je dirais que personne ne peut être attaché à quelqu'un en 10 minutes. C'est un parcours. Et c'est pourquoi il est dit, il se revêtira. Et plus on est attaché, nous démontre que la vraie force qui nous fait vaincre dans toutes nos difficultés, nos travers personnels, intérieurs, cachés, dans notre âme, Neshama, ce n'est pas la prière de l'onction qui vient de Babel-Oued. Ce n'est pas celle-là. Je suis désolé. C'est celle qui va ressembler à celle de Yeshua qui a lutté jusqu'au moment de la mort. Il a vaincu là. Mais par attachement au Père. Alors qu'il aurait très bien pu renoncer en disant « Stop, la souffrance, elle est à son comble. J'y renonce. » Et non. Continue. Et à ce moment-là, il nous faut découvrir le secret. Notre attachement à Dieu est-il plus fort que tout le reste? Est-il capable de nous détacher de tous les liens du monde, de la tentation, de la sexualité, de la perversion, de toutes ces choses qui nous détournent de Dieu? Ah, si je suis attaché à Dieu, je suis détaché. Si je ne suis pas attaché à Dieu, je suis attaché au matériel et donc esclave de toutes ces choses. Et je peux chercher constamment la délivrance par la prière de l'autre. C'est pas ça qui va me délivrer, c'est la décision et de grandir dans un attachement. Et ceci nous amène au vrai sens du mot tefila, de la prière. De la prière qui va vaincre, qui va combattre, qui va dire non, quand on sait que l'on est tenté vers le mal, eh bien c'est là que la résistance doit se faire, la ceinture de la vérité, dit Paul dans Éphésiens 6. Elle doit nous maintenir dans quelque chose qui résiste. Or, vous avez des gens qui, dès que la tentation arrive, ils disent « Oh là là, c'est trop fort pour moi, hein. Allez, j'y vais. » Hein, on va succomber, hein. Oh là là, c'est pas bien, mais qu'est-ce que vous voulez? La chair est faible, la chair est faible. Ils sont vaincus avant même d'avoir prié. Et il y en a plein comme ça. Aujourd'hui, ça pullule de gens qui laissent aller parler leurs émotions, leurs blessures, leur méchanceté, leur haine. Et on croit qu'on se libère par la psychologie humaniste. Eh bien, c'est faux. Ça ne libère pas. Ça nous amplifie dans notre victimisation. Et au lieu de guérir, on pourrit. Et il faut changer, parce que dans Tefila, il y a quelque chose d'extraordinaire qui rejoint la ceinture. C'est qu'il y a effectivement la ceinture de l'air. Mais en même temps, le sens nous est donné dans le passage où Dieu dit « Tu mettras les téphilines chaque du soir au matin, les téphilines, qui doit attacher le cœur, la pensée à Dieu, le connecter. » Le vrai terme que l'on peut donner en hébreu, c'est la reconnexion et la connexion. Connecté, jamais déconnecté, toujours reconnecté. C'est-à-dire quelque chose où il n'y a pas d'espace vide dans le cœur et dans la vie, mais qui à chaque fois nous amène à nous attacher à Dieu, parce que Tefilin veut dire attachement lié. Donc celui qui est Tefila, il est Tefilin, il est dans la prière, mais parce qu'il est attaché, et pas prière parce que simplement il a des problèmes. Aujourd'hui, tous les pasteurs enseignent d'une manière quasi générale, il faut prier pour combattre les problèmes, vaincre, t'es né pour vaincre, tu as reçu l'autorité depuis le Gan Eden, mais t'en es sorti depuis. Mais bon, et vas-y, tu chasses et tu pourchasses. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Esaïe, attache-toi, attache-toi à Dieu et tu auras ne t'attache pas à Dieu et tu n'auras pas. C'est tout. Attachement lié. Et cela veut dire lier le cœur, mais le cœur dans l'action aussi. C'est pas simplement, oh, je sens, oh, il y a sa présence ici. Oui, il n'y a pas sa présence. Où elle est partie? Elle est où? Vous avez des gens qui sont des monsieur symptômes. Ils sentent, puis d'un moment à l'autre, ils ne sentent plus qu'est-ce qui se passe. Ils tâtonnent. Il faut sortir. Il y a une chose intéressante, c'est de voir que le cœur et l'action sont liés, et c'est ça l'attachement à Dieu. C'est quand le cœur et l'action marchent dans le chemin de Dieu que l'attachement a lieu. Eh oui. C'est-à-dire lorsque le cœur renonce à sa rébellion qui le conduit à la désobéissance pour le mettre dans l'obéissance. Mais l'obéissance à ses commandements. Et c'est la tefila qui nous amène à nous attacher à Dieu. Nous nous attachons à Dieu. Et regardez bien, c'est Dieu qui s'attache à nous dans la réalité quand on fait le jeu de mots en hébreu. Ah, et là, c'est particulier. Parce que tefila, tefiline, c'est pas simplement c'est moi qui veux m'attacher à Dieu. Mais en fait, c'est Dieu qui s'attache à moi dans ma marche. Dieu s'attache à moi. Et ça donne un sens extraordinaire. Alors je vais conclure juste par rapport à quelque chose qui aurait pu être largement développé après. Dans Apocalypse 19, et on a juste effleuré, hein, mais c'est la vie. Apocalypse, j'ai dit. Et 19 du verset 1 à 14. C'est la conclusion. Ah, il a fait plus long. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia » et sa fumée monte au siècle des siècles. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône disant « Louez Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. J'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort coup de tonnerre, disant « Alléluia ». Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Ça veut dire qu'avant, il n'était pas entré. Il faut bien le retenir quand même. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, lui a été donnée de se revêtir de fin lin. » Donc tous ceux qui se réclament du Messie, de Yeshua et de son salut, son épouse ne sera reconnue que vêtue de fin lin. Que ceux qui seront vêtus de fin lin, ceux qui auront revêtu la laine ou les vêtements d'animaux non cachers. Et oui, parce que c'était ça les revêtements. En annexe. Ne sont pas l'épouse. Ne sont pas l'épouse. Les mauvaises doctrines. Les mauvais fondements ecclésiastiques ne sont pas l'épouse. L'épouse, ce n'est que celle qui a été revêtue de fin lin. Éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des Kedoshim, des saints. Alors ceux qui mettent en opposition la foi et les œuvres, réfléchissez 2 minutes. Réfléchissez. La foi ne remplace pas les œuvres, mais elle justifie devant Dieu, ce qui donne le sens de l'émouna. Parce que sans acte, il n'y a pas de possibilité. L'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Et tes frères qui ont le témoignage de Yeshua, adore Dieu, car le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc, et celui qui le montait s'appelait fidèle véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, ce qui était en rapport avec le pourpre écarlate hein, qu'on a vu tout à l'heure. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Et à la maison, vous pouvez lire le reste. Et c'est là que le développement entrait. Hein, mais il nous faut quand même conclure. Et il faut conclure. Et dès qu'on aura tout remis en ordre, on aura des bons cours. Mais réjouis de ça. Que j'aille mieux aussi, hein, parce que. Il faut aller mieux. Et en même temps, on peut dire qu'il y a des très belles choses. Et Philippe, il est venu la semaine dernière, lorsque j'étais en Suisse. T'as vu comment ça se passe, le temps qu'on a. Et malgré tout, on manque de temps. Et donc, ben voilà, il y a. L'Éternel fait des belles choses et je crois que, voilà, il nous faut maintenant devenir cohérents ensemble dans une marche, pas simplement une théorie, des idéologies, les aspirations, mais un concret, simple, un cœur de bonté qui remplit l'espace vide de la bonté divine. De la méchanceté, le monde en est plein. De la critique, le monde en est plein. Les familles se brisent, se cassent parce qu'il y a la dureté dans les paroles. Parce que tout, ce n'est que méchanceté, dureté, machin, ou ambition, pour son ambition. Et aujourd'hui, il faut marcher d'une autre manière. Parce que nous allons vers cet achèvement. Revêtir le fin lin veut dire, allez, tu vas enlever un peu tout ça. Nettoyer. Échanger. Et la bonté va remplir. Mettre de la grâce, de l'amour dans les paroles. Même si tu estimes qu'il ne mérite pas. C'est justement parce qu'il ne mérite pas que tu dois le faire. Voilà, tiens. Ouais. Si tu le méritais, ce serait plus un effort. Que Dieu nous bénisse, que Dieu fasse grandir spirituellement la Kehila. Adonai Elohim. Les mots sont faibles devant ta face. Et toutes nos œuvres ne pèsent qu'un guéra, c'est-à-dire moins d'un gramme devant toi. Nous sommes trouvés tellement légers dans nos comportements, dans notre vie et notre marche avec toi. Éternel, nous voulons devenir de l'or pur, quelque chose qui a du poids devant ta face, quelque chose qui a la plus grande valeur, quelque chose où nous avons payé le prix pour enlever nos scories, où nous avons été brûlés à très haute température intérieure dans notre neshama, par les épreuves, les injustices, par toutes les incompréhensions, par tous les rejets des autres, par tout le mépris des autres. Merci parce que tu nous as construit notre identité. Notre maison se bâtit non sur la blessure, mais sur sa guérison, accomplie en Yeshua. Et je te bénis, Seigneur, de ce que tu peux permettre enfin que les gens comprennent qu'il faut une vie qui pratique et qui avance, qui grandit. Sois béni éternellement, Dieu, par le Messie Yeshua. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne. Si je dois, je vais te dire, j'ai une sonde, je ne peux pas retenir.